va commencer avec mes deux voisins et va s'élargir ensuite à l'ensemble des intervenants. Et ça permettra d'enchaîner directement sur le débat avec les questions que vous souhaitez poser sur le déroulement de cet après-midi. Alors, cette table ronde, je l'ai intitulée « Comment sortir de l'impasse ?». Si j'ai employé ce terme d'impasse, c'est pour deux raisons qui tiennent à la persistance des dangers et à l'inadéquation des réponses. Persistance des dangers, car la critique des politiques sécuritaires, je dirais passées ou présentes, ne suffit pas à faire disparaître les dangers que ces politiques sont supposées éradiquer, prétendent éradiquer. Bien au contraire, il me semble que l'imprévisibilité des dangers a sans doute augmenté. Je pense qu'elle a dû augmenter avec l'instabilité économique et financière, on en a d'ailleurs parlé. Je pense qu'elle a dû augmenter aussi avec les interactions croissantes liées aux nouvelles technologies. Technologies dans le domaine de l'informatique, mais technologies aussi dans d'autres domaines, biotechnologie et autres. Or, l'imprévisibilité contribue, me semble-t-il, à nourrir la peur. Elle contribue à nourrir la peur des risques globaux. Je pense à ces questions que nous avons traitées dans le cours ensemble, les risques environnementaux, le fameux thème du changement climatique, les risques sanitaires, les épidémies. Mais en même temps, l'imprévisibilité nourrit la peur de l'autre. Celui qui apparaît comme une menace. Et quelquefois, on emploie aussi pour lui le mot de risque, ce qui accroît la confusion. Alors, peur de l'autre comme une menace, c'est la peur du délinquant, auteur de meurtres, d'attentats sexuels, de violences volontaires, la peur de l'ancien délinquant, le récidiviste, même quand il a exécuté sa peine, le délinquant potentiel, et même la personne potentiellement, non pas délinquante, mais potentiellement dangereuse. Malades mentaux, étrangers en situation irrégulière, ou encore mineurs dits à risque, expression extrêmement ambiguë. Or, la peur a pour conséquence de brouiller les frontières entre les réponses aux risques, les réponses du droit civil, du droit de la santé, du droit de l'environnement, et les réponses aux menaces interindividuelles, les réponses du droit pénal. Les frontières sont brouillées, d'où l'inadéquation de ces réponses. Parce que cette porosité entre les différents secteurs du droit a sans doute des effets pervers. En droit civil, on évolue de la responsabilité civile de la réparation à une responsabilité civile de la prévention, puis de la précaution. Et voici qu'on transpose maintenant en droit pénal ce schéma qui conduit, quand il s'agit du droit pénal, à légitimer au nom de la sécurité des atteintes à des libertés, comme la liberté d'aller et venir, ou à des droits essentiels, comme la vie privée ou l'égale dignité. Alors, je dirais que la propagation de la peur aurait ainsi facilité la transposition du principe de précaution des risques naturels ou technologiques à la criminalité réelle ou potentielle. Et c'est aussi peut-être une des explications de ce fait qu'on a pu justifier par ce principe de précaution, presque sans protestation du public, tout ce qui a été énoncé aujourd'hui, l'autonomisation de la dangerosité, le scandale de la torture, ou cette extraordinaire transposition du concept de traçabilité des produits alimentaires aux êtres humains. La métaphore fait de l'être humain un objet dangereux, donc déshumanise en les déresponsabilisant les êtres humains. Le président de la CNIL a d'ailleurs récemment dénoncé cette société du tout traçable qui devient, écrit-il, un cauchemar. Si l'on n'instaure pas aujourd'hui de puissants garde-fous, il sera très vite trop tard. Mais il n'est pas sûr qu'il soit entendu, car le consensus actuel tient peut-être aussi aux causes politiques qui ont été évoquées, mais je vois une autre raison, c'est la simplification de ce concept extrêmement complexe qu'est la sécurité humaine. Quand on lit les rapports hautement sophistiqués comme Global Risks 2007 élaboré par le World Economic Forum, qui tente de modéliser les corrélations entre toute une série de catégories de risques, on comprend qu'il soit beaucoup plus facile de désigner le plus tôt possible un ennemi clairement identifié. On comprend, et c'est un thème qui a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, qu'il soit plus facile d'utiliser systématiquement le fait divers, parce qu'il a l'air de s'imposer, il a la force de l'évidence, alors qu'il permet des manipulations, alors qu'il n'est en réalité, c'est ce que montre très bien Marc Crépon dans La culture de la peur, il n'est en réalité rien d'autre qu'une diversion. Résultat, la diversion et la confusion sont ainsi créées. Entre des exemples les plus particuliers, le dernier fait divers, la compassion exprimée bruyamment à l'égard des victimes, et puis en même temps les études de risque les plus générales qui sont inspirées des méthodes relatives aux risques globaux. On nous en a parlé ce matin, la rationalité actuarielle qui vient, ne l'oublions pas, des assurances. Tout cela nous conduit tout droit à l'illusion qu'il existerait un moyen d'abolir le hasard et de prévenir toutes les menaces. Moyen simple, il suffit d'exclure toute personne identifiée comme dangereuse. Et au fond, c'est ce qui amène les propos étonnants du ministre de la Justice au moment de soutenir la loi sur la rétention de sûreté en disant « De toute façon, cette loi est conforme aux exigences constitutionnelles, notamment au principe d'égalité, puisque au même niveau de dangerosité, deux condamnés seront traités de façon identique. Mais je pose la question, est-il vraiment possible d'évaluer des niveaux de dangerosité et de les évaluer avec suffisamment de précision pour qu'il soit possible d'affirmer pour un même niveau de dangerosité, deux individus seront traités de façon identique ? C'est loin d'être clair. En somme, on a diversion, confusion, illusion qui s'unissent pour démontrer que la sécurité est un droit qui devrait l'emporter sur les libertés et finalement pour justifier quoi ? Le recours à la force. Alors finalement, j'ai employé le mot impasse, mais quelle meilleure définition de l'impasse que le texte célèbre de Pascal, ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, c'est ça l'impasse. Afin que la justice et la force fussent ensemble et que la paix fût. Pour dire comment sortir de l'impasse, pour dire comment fortifier la justice, nous sommes trois orateurs auxquels se joindront, s'ils le souhaitent et quand ils le souhaiteront, les autres intervenants. Alors, je donnerai d'abord la parole à Christine Lazerge. Christine Lazerge est ma collègue depuis bien des années. Elle est professeure à Paris 1 en droit pénal, procédure pénale et politique criminelle. Elle est en même temps directrice des archives de politique criminelle. On a fait une page de publicité pour la revue de sciences criminelles. Je sens qu'il va y avoir un panneau publicitaire aussi pour les archives de politique criminelle. Elle est aussi la directrice de l'école doctorale de droit comparé de Paris 1. Mais elle n'est pas seulement universitaire. Entre 1997 et 2002, elle a été parlementaire, membre de la Commission des lois, première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et alors, notamment pendant sa période de parlementaire, en 1997, elle a eu une mission du Premier ministre sur le thème des réponses à la délinquance des mineurs, thème qui est vraiment au cœur de nos débats aujourd'hui. Le rapport a été publié en 1998. Vous l'avez fait à deux, je crois, avec oui. M. Balduic. Et elle a donc tous les titres pour intervenir et pour nous dire, même si elle n'est plus à l'heure actuelle parlementaire, comment sortir de l'impasse, Christine.
Mireille, merci, mais c'est avec beaucoup de timidité que j'interviens là maintenant parce que c'est tellement difficile de dire et de savoir puis de dire comment sortir de l'impasse alors que ces politiques sécuritaires que l'on sait vouées à l'échec ne sont pas simplement construites sur une probable dangerosité, mais elles sont construites en filigrane sur des soucis gestionnaires. Et c'est finalement moins cher de faire la guerre que de retisser le lien social. Elles sont aussi construites en filigrane sur autre chose, sur une instrumentalisation folle de la victime. Et c'est finalement tellement plus facile de parler de compassion à l'égard des victimes, même si ce n'est pas forcément cela qui se passe en réalité, que de trouver des solutions réalistes qui permettent de combattre les idées folles d'une justice actuarielle. L'impasse, c'est donc l'impasse de la guerre, c'est l'impasse de la peur, c'est l'impasse du renoncement, de l'absence d'espérance, au nom de la probabilité et au nom d'une impossible résilience, alors que l'on sait qu'elle est possible. L'impasse, elle est consubstantielle à un discours politique que je qualifie de déclaratif, qui se veut essentiellement sédatif, rassurant, tout en exaltant, de façon tout à fait paradoxale, il se veut sédatif, mais il exalte les peurs et les risques. Face à ce constat qui est celui de notre journée d'aujourd'hui, je vais essayer de dire en quelques mots ce que peut être un propos pragmatique, mais pas dépourvu de toute assise idéologique. En une phrase, l'assise idéologique de mon propos, c'est l'égale dignité de tout être humain, fût-il désigné comme dangereux. Et la figure dangereuse, stigmatisée, que je vais choisir, c'est celle du mineur délinquant. Mireille Delmas-Marty vous l'a indiqué à l'instant, et elle m'avait demandé de faire état peut-être plus de mon expérience de parlementaire que de mon expérience d'universitaire. J'aurais pu évidemment choisir d'autres figures, mais je trouve finalement que celle du mineur délinquant est d'autant plus parlante qu'il est vraisemblablement assez peu dangereux au sens où un terroriste peut l'être, ou au sens où un criminel multirécidiviste peut l'être, et nous allons le voir à l'instant, dans un instant. Ce que nous observons, c'est un durcissement de la politique criminelle à l'égard de cette figure-là, au nom d'une dangerosité présumée. Et de mon expérience de parlementaire, je tire trois leçons, au moins, ou du moins je vais vous faire part de trois leçons. La première leçon se résume à ceci. Il ne faut pas leurrer le citoyen sur ce que la loi peut produire. Et les parlementaires devraient avoir cette sagesse de ne légiférer que quand, dans le domaine qui nous intéresse, celui des réponses à la délinquance, de ne légiférer que lorsque ce qu'ils ont à dire par le biais de la loi peut effectivement être une avancée. Le problème est qu'ils sont instrumentalisés aussi par le pouvoir exécutif, pas seulement en France, mais ailleurs. Et donc, la première, finalement, figure instrumentalisée, c'est le Parlement. Je voudrais dire en second lieu que lorsque la loi est nécessaire et qu'elle est votée, il faut lui donner les moyens de son application. Et là, je reparlerai un tout petit peu de la logique gestionnaire. Rarement, aujourd'hui, très rarement, les moyens de l'application d'une loi sont donnés. Et troisièmement, je voudrais dire que au lieu de communiquer sur la simplicité des politiques en politique criminelle, et la politique sécuritaire, effectivement, est extrêmement vite accessible, faisons le choix très difficile de communiquer sur la complexité, sur la difficulté, sur le fait qu'il n'y a aucune réponse toute faite à la délinquance et que les réponses viennent d'une conjonction d'outils qui eux-mêmes viennent de toutes les sphères du droit et bien au-delà du droit, et pas seulement du droit pénal. Alors tout d'abord, ne pas demander à la loi ce qu'elle ne peut pas produire. Pour sortir de l'impasse, ne serait-ce que pour les mineurs, n'est-ce pas d'une infinie naïveté que de croire qu'en changeant la loi, on va faire baisser la délinquance des mineurs. Et donc évidemment, à cet égard, je ne peux que dénoncer la frénésie sécuritaire et rappeler que, je prends essentiellement l'exemple de la France, mais la France n'est pas seule à fonctionner en ce domaine comme elle fonctionne. En France, à l'heure actuelle, vous le savez tous ou presque tous les textes sont votés selon la procédure d'urgence, donc sans se donner le temps, sans donner de temps au temps, et sans une seule lecture devant chaque assemblée. Et réfléchissant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis souvenue de ce que Jean Carbonnier m'avait écrit lorsque j'ai été élue députée. Et il m'avait écrit « Souvenez-vous toujours qu'il existe un 11e commandement, tu ne légiféreras jamais par plaisir. » Et on a l'impression que les législateurs, dans une espèce de course en avant éperdue, instrumentalisée par les pouvoirs exécutifs, légifèrent par plaisir, ou en tout cas légifèrent pour donner l'impression d'eux. Et je me suis trouvée dans la situation où justement il fallait faire le choix entre légiférer ou ne pas légiférer. Mireille Delmas-Marty nous a rappelé tout à l'heure que Lionel Jospin nous avait confié à Jean-Pierre Balduit et à moi-même. Jean-Pierre Balduit était un député du Nord, député-maire de Tourcoing, et moi du Sud, député de l'Hérault. Et nous avait demandé de réfléchir à une potentielle réécriture de l'ordonnance du 2 février 1945, c'est-à-dire que le sujet n'est pas nouveau, c'était en 1997. Et la lettre de mission comportait cette phrase que je trouve intéressante. Nous écrivait en nous demandant de vérifier l'adaptation de ce dispositif, c'est de l'ordonnance de 1945 et l'ordonnance de 1958 et l'ensemble des textes sur l'enfance en danger, de manière à mesurer leur adaptation à la réalité actuelle du terrain. Il s'agit, disait-il, de rendre compatible le droit à la sécurité pour tous les citoyens et la protection des droits de l'enfance dont les mineurs délinquants ne sont pas exclus. Vous voyez que la question qui nous était posée était celle, non pas de lutter contre un ennemi avant tout, mais de trouver le juste équilibre entre la cohésion sociale entamée par la délinquance des mineurs et les droits de l'enfance dont, disait-il, les mineurs délinquants ne sont pas exclus. Et c'est un pas de plus qui a été franchi depuis. La commission que Jean-Pierre Balduc et moi-même avons mis en place eut très vite à faire un choix difficile, appeler ou ne pas appeler à une révision de l'ordonnance du 2 février 1945. Et vous pouvez deviner, vous pouvez mesurer combien appeler à la révision de l'ordonnance du 2 février 1945 était la solution la plus facile et en même temps la plus trompeuse, la plus gratifiante pour nous. Nous serions ensuite porteurs d'un nouveau droit des mineurs. On parlerait non seulement de ce nouveau droit des mineurs, mais aussi de nous. Et la commission de travail que nous avons mise en place, nous l'avions composée avec beaucoup de professionnels venant de divers secteurs. Elle comportait trop d'experts et d'universitaires, de magistrats et de parlementaires honnêtes pour que nous fassions ce choix trompeur de la modification de l'ordonnance de 1945, d'autant plus que nous étions pleinement conscients qu'ouvrir ce que nous appelions la boîte de Pandore de l'ordonnance de 1945 devant un Parlement composé même à gauche de sceptiques sur les textes en vigueur revenait à ne pas savoir quel serait au final le cap tenu. Or, nous voulions tenir un cap qui était précisément celui de la conciliation, de l'équilibre entre les droits de l'enfant, d'abord les droits de l'enfant et ceux des délinquants, fussent-ils mineurs, et ensuite la compatibilité entre ce cap-là et le maintien de la cohésion sociale. Je préfère cela à l'ordre public. Notre rapport, aussi curieux que cela paraisse, comporte 135 propositions, dont aucune, si une est en la marge, ne supposait de modification législative. Et l'idée force était, ne modifions pas l'ordonnance de 1945, mais donnons-lui les moyens de son application. Et ce qui nous paraissait de loin le plus intelligent, le plus prometteur pour contourner les politiques sécuritaires déjà naissantes. Et je ne cacherai pas la déception de mes amis politiques, députés de gauche, mais je ne cacherai pas non plus la grande satisfaction des professionnels de l'enfance délinquante, qui, eux, savaient depuis longtemps que le problème n'était pas un problème de texte, si seulement ce n'était qu'un problème de texte. Cependant, quand on fait ce choix-là, et j'en parlerai à la fin de ma communication, quand on fait ce choix-là, il faut arriver à convaincre que c'est le bon choix, il faut arriver à le démontrer, et là, la difficulté est réelle. Elle est réelle parce que choisir les solutions difficiles, c'est évidemment plus difficile que de choisir les solutions faciles. Comment expliquer, non seulement aux parlementaires, mais au pouvoir exécutif et bien au-delà, au grand public, que retricoter le lien social ne passe pas seulement par la loi pénale, que même la mission éducative que peut remplir la loi pénale ne passe que partiellement par la loi pénale, évidemment, appelée à une mobilisation beaucoup plus générale est infiniment plus compliquée que d'ajouter des infractions aux infractions. Or, aujourd'hui, que fait-on ? Aujourd'hui, on ajoute des infractions aux infractions. Et je voudrais, parce que nous parlons depuis ce matin de dangerosité, prendre un exemple qui me paraît être le meilleur exemple, c'est celui d'une proposition de loi qui n'est pas encore votée, donc peut-être peut-on encore militer contre, c'est cette proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public qui est enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale depuis le 5 mai dernier. L'exposé des motifs est extrêmement saisissant. Il s'articule autour d'un constat du ministère de l'Intérieur, notez bien, pas de la justice, selon lequel 5000 personnes, la moitié de mineurs, appartiendraient à l'une des 222 bandes, c'est une précision qui est incompréhensible, comment savoir qu'il y a en France 222 bandes, qui appartiendraient à l'une des 222 bandes connues en France, contre lesquelles, dit l'exposé des motifs, le combat doit être quotidien, nous ne sommes pas loin du droit pénal de l'ennemi. Et toujours, selon l'exposé des motifs, pour parfaire ce combat, l'article 1er de la proposition de loi, dit le rapporteur, instaure une nouvelle incrimination, réprimant de façon spécifique la participation à une bande ayant l'intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens concertés, dont la définition est directement inspirée de celle de l'association de malfaiteurs. Le rapporteur explique qu'en fait, il ne s'agit de rien d'autre que d'élargir l'incrimination d'associations de malfaiteurs. Donc on insère, c'est expliqué toujours dans l'exposé des motifs, un article 222.14-2 prévoyant que le fait de participer en connaissance de cause à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit un but, le but caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou la destruction ou dégradation de biens, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Je voudrais vous faire observer qu'en clair, il ne s'agit de rien d'autre que du délit d'association de malfaiteurs de l'article 450-1 du Code pénal, qui, lui, pour être constitué, suppose la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Donc ici, on abaisse à 3 ans d'emprisonnement. Et pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que les violences volontaires, même commises en réunion, ne sont punies que de 3 ans d'emprisonnement, lorsqu'elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à 8 jours. Évidemment, lorsqu'elles n'ont pas commencé, qu'on est au stade de la tentative, évidemment, il n'y a pas d'incapacité de travail. Donc, on est bien obligé d'abaisser le seuil. À vouloir durcir la répression, si telle est l'ambition, et c'est sans doute l'ambition, il aurait été sans doute plus cohérent de rester dans le cadre de l'association de malfaiteurs. J'aurais quand même ajouté là-dessus que n'en demeure pas moins toujours aussi difficile, et j'espère que ce sera débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat avec vigueur, la preuve d'infraction à venir. Là, il s'agit de prouver des violences volontaires à venir. Et donc, on n'en est même pas au stade des actes préparatoires, on en est au stade de l'intention criminelle que l'on va chercher à scruter. Et je vous pose un cas pratique. Je pourrais poser à mes étudiants. La seule présence de couteaux suisses dans les poches d'une troupe de scouts pourra faire tomber, sous le coup du futur article 222-14, cette troupe de scouts, si elle déambule aux abords d'une manifestation. Mais la réponse, j'ai dit pourra. La réponse est évidemment négative, parce que l'image d'une troupe de scouts n'est pas celle d'une bande dangereuse. Mais on devine que les risques de discrimination et d'arbitraire que le nouveau texte fait courir sont immenses. Il suffira qu'il ne s'agisse pas d'une bande de scouts, qu'il n'y ait qu'un seul canif dans une seule poche pour que la répression puisse s'abattre. Voilà, je voulais aussi vous indiquer que le troisième article de cette proposition de loi propose que les personnes qui, ni dans leur comportement, ni dans leur habillement, ni dans les prétendues armes qu'elles recèlent, ne pourraient en principe être poursuivies, le soient, dit le rapporteur, en vertu d'une complicité implicite. Alors voilà un texte qui est bafoue non seulement, et ça on le savait déjà avec l'association de malfaiteurs, et les éléments constitutifs d'une tentative punissable en droit pénal classique, mais aussi ceux de la complicité. Monsieur Estrosi nous dit qu'il y a des cas de complicité implicite et qui résultent du port d'un pull à capuchon. Et comme tous les adolescents portent des pulls à capuchon, sans forcément, mais éventuellement, se cacher le visage avec leur capuchon, je réinsiste sur les risques fantastiques d'arbitraire et de discrimination qui peuvent résulter de ce droit. Et à nouveau, je vous cite Jean Carbonnier dans son article au mélange Rodière qui dit « Les modernes ont mis en forme criminologique cette méfiance ancestrale qu'est la théorie de l'état dangereux. Le menu fait symptomatique, le pull à capuchon, devrait être soigné, sinon puni, non pour le peu qu'il est, mais pour l'abîme qu'il dévoile. » Voilà ce que simplement je voulais vous indiquer au titre de ne pas demander à la loi ce qu'elle ne peut pas produire. Deuxième observation, donner à la loi, quand elle est nécessaire et quand elle a été votée, les moyens de son application. Et on entre en conflit ici entre logique sécuritaire et logique gestionnaire. Il est de plus en plus rare, je vais être rapide sur ce point, de plus en plus rare que les moyens soient donnés de l'application des lois. Je prends toujours pour exemple le droit des mineurs et je prends pour exemple plus précis le délai de mise à exécution des décisions prises par les juridictions pour mineurs ou par les parquets en alternative aux poursuites. Ces délais vont de 6 mois à 18 mois et vous imaginez ce que cela représente pour un adolescent de n'être effectivement sanctionné que 18 mois après les faits ou 6 mois après les faits, tout simplement parce que, qu'il s'agisse de réparation pénale ou de travail d'intérêt général ou d'accompagnement en milieu ouvert, des difficultés budgétaires font qu'il n'est pas possible aujourd'hui de faire autrement. Je n'insiste pas sur ce point-là, mais j'indique qu'un des moyens de sortir de l'impasse sécuritaire, c'est avec raison de donner les moyens à quelques textes qui ont rapporté la preuve de leur efficacité d'être effectivement appliqués. Donner les moyens à la loi de son application, c'est aussi donner les moyens d'une politique criminelle différenciée et participative. C'est-à-dire ne pas tout attendre du pénal, même dans sa diversité. Ne serait-ce que parce que, et toujours en gardant comme figure emblématique de mon propos la figure du mineur délinquant, ne serait-ce que parce que la délinquance des mineurs n'est pas une, elle est plurielle, très peu est fait pour la délinquance pathologique, très très peu. Vous connaissez la misère de la pédopsychiatrie en France qui n'a d'égal que celle de la psychiatrie. Là, il y a au moment où je vous parle 800 postes vacants dans le secteur public de la psychiatrie en France. Donc autant vous dire que pour la délinquance pathologique chez les mineurs, la mise en œuvre des possibilités offertes par la loi est quasi inexistante. Pour la délinquance d'exclusion, qui a été si bien décrite par Denis Salas et directement, et si bien décrite indirectement par Robert Castel dans l'insécurité sociale et dans la discrimination positive, pour la délinquance d'exclusion, et c'est de cette délinquance-là que relève le phénomène des bandes qui semble aujourd'hui inquiéter, il est de tous les temps, le phénomène des bandes. Il est inquiétant, mais il est de tous les temps. Il n'y a pas véritablement de nouveauté en ce qui concerne le phénomène des bandes. Eh bien, dans ce domaine-là, pour sortir de l'impasse, on sait que la justice seule est d'une infirmité très grande et qu'il faut bien évidemment avoir recours à d'autres grandes institutions comme l'éducation nationale, la santé, etc. Mais je ne m'étendrai pas. C'est ce que j'appelle politique criminelle participative. Et je pense, c'est ce que Gilbert Bonne-Maison a résumé de ce mot, la délinquance est l'affaire de tous. Mais sérieusement, la délinquance est l'affaire de tous. La politique criminelle participative, elle a pour objet de préserver la cohésion sociale, mais aussi de préserver l'ordre public. Sortir de l'impasse impose de tenir ces deux objectifs et de le tenir dans la vérité. Et c'est mon dernier point. Mon dernier point, comment communiquer sur la complexité? Comment communiquer sur une politique qui serait autre chose qu'une répression d'affichage et une compassion d'affichage pour les victimes? Dans les deux cas, il s'agit d'affichage. Ça, j'insiste. Les acteurs politiques communiquent difficilement sur ces sujets. Ils communiquent difficilement sur ces sujets parce que, de toute façon, communiquer sur la complexité, c'est éminemment difficile. Quand on vous donne la parole à la télévision, vous avez au mieux 1 minute 30. C'est plutôt 30 secondes qu'une minute 30. À la radio, ça va quelquefois jusqu'à 3 ou 4 minutes. Dans les articles, quand vous envoyez une tribune au Monde, on vous dit c'est trop technique. Je ne prends que ces exemples. Quand des juristes essayent de communiquer sur ces questions, on vous renvoie très vite le fait que c'est trop compliqué. Et ce qui me paraît, moi, absolument capital, c'est que nous osions la complexité, que nous osions dire que les citoyens peuvent comprendre autre chose que la peur et la simplicité qui n'est que mensonge. Et pour communiquer sur la complexité, il faut faire le choix de la vérité sur un sujet. Il ne faut pas trafiquer les statistiques, mais il faut dire que les choses sont graves. Il faut aussi dire de quoi l'on est capable et de quoi l'on n'est pas capable. On est passé en quelques années d'un discours quasiment de vérité en matière de santé, je crois. Sur l'environnement, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est en voie de le devenir. Dans le domaine de la sécurité, on est toujours dans un discours d'opacité, de mensonge, de simplicité, d'amalgame. Et une des premières façons de sortir des politiques sécuritaires, c'est de se battre pour que le discours produit par les sachants et par les politiques, en premier lieu, puisque c'est d'eux qu'on attend un discours, soit un discours qui rejette l'amalgame, qui rejette la peur d'autrui et qui soit complètement imprégné de cette idée d'égale dignité de tous et de possibilité de résilience pour tous. Je vous remercie.
Merci de nous avoir fait part de votre expérience.